Alors, c'est le moment de l'interview scientifique que nous avons l'immense chance de recevoir le docteur Audrey Dussutour. Scientifique hors des sentiers battus, vous êtes connu pour vos recherches étonnantes sur les fourmis, puis le blob. Aujourd'hui, vous nous racontez une autre histoire avec votre dernier livre, Les champignons de l'apocalypse. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Alors, le collège et certaines écoles primaires du secteur ont participé à l'aventure Blob sur deux expérimentations de sciences participatives. Mais aujourd'hui, on vous reçoit pour en savoir davantage sur cette histoire de champignons de l'apocalypse. On commence par deux questions posées par Nathan.
Bonjour Audrey Dussutour, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ?
Alors moi, je suis directrice de recherche au CNRS à Toulouse, donc je fais des recherches scientifiques. Et mon domaine d'étude, c'est l'éthologie, donc l'étude du comportement des animaux. Et donc, j'essaye de comprendre, en particulier, les fourmis et le blob, comment ils s'adaptent à leur environnement, comment ils répondent à des contraintes de cet environnement. Et donc, la journée type, c'est de faire des expériences, analyser des résultats, écrire ces résultats pour les publier au niveau international et surtout chercher des financements pour pouvoir réaliser mes recherches.
Pourquoi avez-vous choisi d'écrire un livre sur les champignons ? Qu'est-ce qui vous intéresse chez eux ?
Alors, j'ai choisi d'écrire un livre sur les champignons parce que j'ai collaboré avec une post-doctorante qui travaillait à mes côtés il y a 4 ans sur les champignons et comment ils manipulaient le comportement des fourmis. Et ça m'avait énormément intéressée. Et j'ai écrit un livre sur les fourmis et mon directeur de collection, qui s'appelle Mathieu Vidard, qui travaille à France Inter, avait vu la série Last of Us. Et il m'a dit, Audrey, il faut absolument qu'on écrive un livre sur les champignons parasites. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure.
Avec les prochaines questions posées par Mathis, nous allons essayer de comprendre la place des champignons dans le monde vivant.
Bonjour Audrey. Est-ce qu'un champignon est une plante, est un animal ou une autre chose ?
Alors non, le champignon n'est pas une plante ou un animal, c'est un champignon. C'est un règne à lui tout seul, les champignons. Et c'est un règne qui est plus proche des animaux que des plantes. Mais il est vrai que pendant très longtemps, jusque dans les années 70, les champignons étaient classés dans les plantes parce que Aristote, à l'époque, avait séparé les êtres vivants en deux grands groupes, ceux qui ne bougent pas, donc les plantes, et ceux qui bougent, les animaux. Mais bien sûr, maintenant, on sait qu'il y a beaucoup plus de groupes que ça. Et donc, le règne des champignons, c'est un règne cousin des animaux et ils se sont séparés les deux il y a 1,2 milliard d'années à peu près.
Dans votre livre, vous parlez des champignons de l'apocalypse. Certains peuvent-ils vraiment menacer l'humanité ?
Alors, ils peuvent menacer l'humain, c'est vrai, puisqu'il y a 3 millions de gens qui meurent d'infections liées à des champignons chaque année, donc c'est déjà énorme. Mais surtout, ils peuvent vraiment faire des dégâts chez de nombreuses espèces animales. Et donc, les champignons de l'apocalypse, le titre, c'est en référence à un champignon qui a attaqué les batraciens, les grenouilles, les salamandres, qui s'appelle Batrachochytridium dendrobatidis. Dans des noms un peu compliqués, mais qui est surnommé BD. Et ce champignon, il a tué des millions de grenouilles. Et il y a quand même 100 espèces de grenouilles qui ont disparu à cause de ce champignon, ce qui est énorme. Et il y a un autre champignon qui récemment fait des dégâts dans les populations de chauves-souris aux États-Unis, puisqu'ils ont perdu une chauve-souris sur 8, qui représente 7 millions de chauves-souris qui sont mortes en à peine 10 ans. Et donc, pour l'instant, le champignon est toujours là, donc on risque d'en perdre encore. Donc, on n'est pas à l'abri qu'un jour, on ait un champignon qui fasse de même avec lui-même.
Merci.
Alors, nous parlons des champignons parasites depuis le début de cette interview, mais Talia a des questions à l'opposé de ce concept.
Bonjour. Est-ce que certains champignons peuvent aussi être bénéfiques, par exemple, pour dépolluer ou soigner ?
Alors oui, il y a beaucoup de champignons qui sont à l'origine de médicaments. Donc par exemple le champignon Penicillium, à qui on doit l'antibiotique la pénicilline qui a sauvé des millions de gens depuis qu'on l'a découvert. Il y a même des champignons parasites qui ont inspiré les médecins et donc en particulier par exemple on a Tolipocladium, qui est un champignon qui est à l'origine d'un médicament qui s'appelle la cyclosporine, qui permet les greffes d'organes. Donc ça permet à votre système immunitaire de dormir un petit peu pendant qu'on greffe un organe et pour pas qu'il rejette l'organe. Donc il y a beaucoup de médicaments en fait qui ont été trouvés grâce aux champignons. Et ensuite, il y a aussi en effet des champignons qui dépolluent les sols. Donc oui, les champignons sont très utiles. Il faut savoir qu'il n'y a que 30% des espèces de champignons qui sont parasites et qu'il existe 5 millions de champignons. Et il y a un bon tiers de ces champignons qui vivent en symbiose avec d'autres organismes et donc qui vivent en paix, pas comme les champignons parasites.
Comment les champignons arrivent-ils à coopérer avec les plantes ou les arbres ?
Alors oui, c'est vrai que 90% des plantes vivent en symbiose avec les champignons, c'est-à-dire franchement la grande majorité des plantes. Et en fait, les champignons leur permettent d'accéder à des minéraux et des nutriments qui sont dans le sol. Et donc, ça permet en fait de multiplier la surface racinaire. Donc en fait, la plante, en échange de ces minéraux, elle donne aux champignons du glucose qui est issu de la photosynthèse, donc c'est-à-dire la transformation de l'énergie du soleil en sucre. Donc la plante, elle va donner du sucre aux champignons. Le champignon, en échange, il va lui donner des minéraux, mais surtout, il va donner de l'azote, qui est un élément essentiel pour fabriquer des protéines. Et donc la plante a difficilement accès à cet élément. Et donc le champignon, lui, va pouvoir en fait développer son rhizome mycélien et aller capturer l'azote et le distribuer aux plantes.
Alors, deux dernières questions afin de terminer sur une note plutôt inspirante.
Bonjour Audrey, quel message aimeriez-vous faire passer aux jeunes à travers ce livre ?
Alors j'ai essayé, vous avez vu dans ce livre, de mélanger science et science-fiction. C'était pour pouvoir en fait attirer justement les jeunes à lire ce livre. L'envie, c'était de montrer que les sciences, ça peut être accessible si on les rend un petit peu plus fun, entre guillemets. Et donc l'idée avec cette science-fiction, cette nouvelle de science-fiction qui est à l'intérieur de mon livre, c'est de montrer que finalement, la science-fiction, elle n'est pas beaucoup plus intéressante que la réalité parce que finalement, la nature a beaucoup plus d'imagination que nous. Et finalement, quand on s'intéresse à tous les parasites, les champignons parasites qui vont attaquer, par exemple, les insectes, on voit qu'ils développent des stratégies assez extraordinaires et les réalisateurs n'ont même pas pensé à ces idées-là. Donc c'est pour vraiment montrer, à l'aide d'une nouvelle de science-fiction, que finalement la réalité, elle n'a rien à envier à la fiction.
Et quel conseil donneriez-vous à un élève qui souhaite faire votre métier ?
Alors, je lui souhaite d'être extrêmement passionné. C'est un métier où si on n'a pas la passion de la recherche, on n'y arrivera pas parce que c'est un métier qui demande quand même certains sacrifices. Il faut travailler très dur et donc il faut vraiment aimer ça parce que c'est un métier qui ne s'arrête pas à 5 heures pour débuter à 9 heures le lendemain. C'est un métier qui ne s'arrête pas le week-end. Donc, c'est vraiment un métier passion. Dans la passion, ça devient finalement un hobby, ce métier, et on a un grand plaisir à le faire, même si on doit le faire le samedi ou le dimanche. Donc voilà, je dirais de la passion. Il faut avoir beaucoup de rigueur aussi parce que la science, ça repose sur des expériences rigoureuses. Donc, il faut être très organisé. Et il faut être assez aussi social parce que quand vous êtes chercheur, vous formez énormément de jeunes et donc vous avez des contacts permanents avec les jeunes étudiants. Donc, il faut avoir quand même des capacités à communiquer un petit peu ses idées. Donc, je dirais que c'est quand même la chose qu'il faut avoir en premier, c'est la passion.
Merci Audrey. Quand vous parlez de ça, je pense au blob et au week-end qu'ils nous ont fait passer en essayant de partir des boîtes de pétri entre autres. On va garder un petit temps pour des questions ouvertes. Vous en aviez préparé d'autres. Qui c'est qui veut commencer ? Lina ?
Oui, qu'est-ce que vous étudiez actuellement dans votre laboratoire ?
Ah, alors actuellement, on étudie plein de choses. Alors, je vais faire par étudiant parce que j'ai 4 étudiants actuellement. Donc, j'ai Quentin qui vient d'arriver aujourd'hui et qui lui va travailler sur les fourmis parce que je travaille quand même toujours un peu sur les fourmis. Et il va étudier comment le type de protéines, donc on compare dans cette expérience protéines végétales et protéines animales, vont affecter la survie des fourmis. Et est-ce que les fourmis savent sélectionner les bonnes protéines pour maintenir la survie de la colonie, la croissance de la colonie ? Ça, c'est un projet cet été. Ensuite, j'ai 3 étudiantes qui travaillent sur le blob avec moi. Donc, j'ai Marie qui termine un projet où je regarde l'effet des ultraviolets sur le blob. Et donc, on a fait des découvertes assez intéressantes récemment, puisqu'on a montré qu'on pouvait laisser 24 heures un blob sous les UVB qui sont extrêmement dangereux. Et il se réveille sans aucun problème. Donc ça, c'est assez spectaculaire parce qu'il y a très, très peu d'organismes qui peuvent résister à ces UV pendant 24 heures. Et ensuite, j'ai Élise et Stacy qui continuent en fait le projet que j'ai entamé en sciences citoyennes sur l'adaptation du blob au changement de température. Et donc, elles font des tests sur des chocs thermiques. Est-ce que le blob peut s'habituer, etc., s'adapter aux chocs thermiques ? Et donc ça fait suite à ce gros projet que j'ai mené avec plein de citoyens français il y a 2 ans maintenant de ça. On est en train de publié les résultats actuellement. Et donc, elles font en fait suite un petit peu à ce projet, puisque ça a ouvert énormément de questions. Et on a un petit projet aussi qui est lié en fait à une idée qu'on nous a donnée pendant, pendant que je fais les conférences. Je fais les conférences grand public sur le blob. Et à chaque fois, j'ai la même question. Est-ce que le blob pourrait être un moyen de lutter contre la mérule? La mérule, c'est un champignon qui détruit beaucoup de maisons dans le nord de la France. Et donc, il n'y a pas longtemps, je faisais une conférence en Belgique. Et il y a un Belge qui m'a dit, mais moi, j'ai un laboratoire qui s'appelle le Fongilab et j'élève des mérules. Et donc, il nous a envoyé des mérules il y a 2 semaines. Et là, on élève des mérules en ce moment. Et Marie va faire les premiers tests la semaine prochaine avec le blob. Donc, on aura une réponse très bientôt.
Mathis ?
J'ai 2 questions à vous poser. La première, pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ?
Alors, moi, c'était pour mon amour des animaux. À la base, quand j'avais votre âge, au tout début, mon premier métier que je voulais faire, c'était de l'astrophysique. J'avais la tête dans les étoiles, mais après la physique, ça me plaisait moyen. Et je suis devenue de plus en plus intéressée par la SVT, la biologie. Et c'est quand j'ai été à l'université que j'ai découvert en fait l'éthologie, donc qui est l'étude du comportement des animaux. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire un métier qui était juste d'observer les animaux et d'essayer de comprendre comment ils se comportent, pourquoi ils prennent tel choix, etc. Et donc ça m'a plu tout de suite parce que ça a vraiment, dans ma tête, ça a été l'épiphanie, c'est exactement ce que je voulais faire. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai travaillé très dur pour y arriver, mais ça m'a pas été difficile parce que je voulais vraiment, vraiment faire ça.
Talia, tu as eu des questions ?
Oui, 3 questions. La première, c'est comment peut-on devenir étudiant dans votre laboratoire ?
Alors, pour faire un stage dans mon laboratoire, on m'envoie un email. La plupart du temps, c'est ça. Ils commencent par m'envoyer un email. Alors moi, je prends des stagiaires toute l'année, donc j'ai pas de restrictions sur l'année. Mais j'en prends maximum 4 en même temps, parce que j'ai pas beaucoup la place d'en avoir plus. Et puis après, il faut aussi être disponible pour pouvoir les former. Donc la plupart du temps, c'est des demandes que je prends au fil de l'eau. C'est-à-dire que Stacy, par exemple, elle m'a contacté en fin d'année sur LinkedIn, qui est un réseau social. Et elle était très motivée, donc je l'ai pris. Marie, c'est quelqu'un qui a fait la science citoyenne avec moi et donc qui avait adoré l'expérience science citoyenne et qui, du coup, a voulu venir dans mon labo. Elle est une grosse fan du blob, elle élève des blobs chez elle, etc. Quentin, c'est pareil, il a fait la science citoyenne avec moi. Élise, c'est la fille d'un chercheur avec qui j'ai travaillé en Suède et donc qui est venue de Suède pour faire son stage avec moi. Donc c'est vraiment, je ne mets pas d'annonce la plupart du temps parce que c'est des demandes que je reçois très fréquemment. Mais sinon, habituellement, quand un chercheur débute, ce qu'il fait, c'est qu'il met des annonces dans des sociétés scientifiques et il va dire, par exemple, je cherche un stagiaire pour 8 semaines pour travailler dans le laboratoire. Donc pour moi, actuellement, c'est m'envoyer un email.
Ok, merci. J'ai des questions plus sur les champignons. Est-ce que le cordyceps contamine d'autres espèces que la fourmi ?
Oui, alors l'ophiocordyceps, c'est parce que maintenant il s'appelle plus cordyceps. En fait, ils se sont trompés dans la série Last of Us. Et des ophiocordyceps, il en existe des centaines d'espèces. Et elle s'attaque à différents insectes et même à des araignées. Donc, c'est pas du tout limité à la fourmi, mais chaque espèce de Ophiocordyceps s'attaque à une espèce particulière. Donc, par exemple, chez les fourmis, on a Ophiocordyceps unilateralis qui s'attaque aux fourmis charpentières. Mais il pourra pas s'attaquer, par exemple, aux fourmis de feu. Donc, c'est vraiment très spécialisé. Un Ophiocordyceps, en fait, il coévolue avec son hôte pendant des millions d'années. Donc, il est extrêmement spécialisé pour un insecte en particulier. Mais il y a plein d'Ophiocordyceps différents qui vont pouvoir parasiter des insectes et même des arthropodes différents.
Combien mesure le plus grand champignon et comment avez-vous fait pour le mesurer ?
Le plus grand champignon, c'est Armillaria. C'est un champignon qui est aux États-Unis, qui fait 10 km². C'est énorme. Et alors, ils l'ont mesuré parce qu'en fait, c'est un champignon qui se clone et donc ils ont utilisé la génétique pour démontrer que c'était le même champignon. Ils ont fait plein de prélèvements. Donc en fait, le mycélium s'étend sous une forêt et ça fait 10 km. Ils l'ont trouvé sur 10 km².
Et pour terminer, on a les questions de Nathan.
Comment les blobs sont-ils apparus ?
Alors les blobs, eux, c'est des cousins des champignons et des animaux. Donc il faut imaginer que les champignons et les animaux, ils se sont séparés avant que le règne auquel appartient le blob se sépare des champignons et des animaux. Donc le blob, il est plus éloigné des champignons et de nous. Donc c'est vraiment, c'est à peu près, donc je vous ai dit, les champignons et les animaux, ils se séparent il y a 1,2 milliard d'années. Et le règne dans lequel appartient le blob, qui s'appelle les amibozoaires, il avait divergé déjà avant. C'est pour ça que le blob, il a des caractéristiques un petit peu animales et un petit peu champignons. C'est parce qu'il partage quand même une histoire évolutive avec les champignons et les animaux. Et donc, le blob Physarum polycephalum, c'est une espèce en fait. Et elle est apparue il y a 300 millions d'années. Mais sa famille, qui s'appelle les myxomycètes, c'est 1 milliard d'années.
Comment se reproduisent les globes ?
Alors le blob, il se reproduit, là pour le coup, son système de reproduction est très proche de celui des champignons puisqu'il produit des spores. Donc en fait, quand le blob est suffisamment grand et que la nourriture vient à manquer, s'il perçoit la lumière, il va rentrer en sporulation. Et donc, il va former comme des tout petits arbres, tous des arbres miniatures qui portent une grosse boule. Et dans cette boule, il y a plusieurs milliers de spores qui vont être disséminés par le vent. Et ces spores, quand elles vont se retrouver dans un milieu humide, elles vont germer et elles vont chercher ensuite à fusionner avec une autre spore. C'est ce qu'on appelle la reproduction hein, chez les blobs, la reproduction sexuée. Il faut juste qu'ils aient des types sexuels différents. Et chez le blob, il y a 720 types sexuels différents. Donc, il n'y a pas filles et garçons, hein, comme chez nous. Et donc, si les deux spores, elles ont un type sexuel différent, elles vont fusionner et elles vont former un nouveau blob qui va être tout petit au départ. Il est vraiment microscopique. Il fait 10 micromètres. Donc, c'est vraiment tout petit, petit, petit. Et il va commencer par manger des bactéries. Puis finalement, après, il va s'attaquer à des choses un peu plus grandes, des mycéliums, des champignons. Et ensuite, il va grandir, 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 jusqu'à atteindre plusieurs centimètres carrés. Et là, il va se reproduire.
Merci beaucoup.
Alors, nous arrivons au terme de cette interview. Un grand merci, Audrey, pour votre enthousiasme contagieux, pour vos recherches qui nous donnent envie de mieux comprendre et contempler le vivant. Et merci encore pour cette curiosité scientifique que vous réussissez à transmettre avec passion, même à ceux qui ne sont pas spécialistes.
Merci à vous.